Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, l'antenne de Digne, où j'ai le plaisir de recevoir encore une fois, j'ai envie de dire, puisque c'est pas la première fois que je le reçois, Jacques Meurant, écrivain et également vice-président de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence, et puis tellement de choses encore. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler déjà de la conférence que vous allez donner le 1er août au presbytère d'Estoublon, une conférence sur Pierre Magnan, et puis éventuellement, bien sûr, nous parler de la sortie du livre « Commissaire Laviolette », alias Modeste Clarisse, qui va sortir très bientôt aux éditions Parole. Bonjour Jacques Meurant.
Bonjour Odile, et merci de me recevoir.
Aujourd'hui, on va parler du commissaire Laviolette. Vous allez nous présenter ce livre qui ne saurait tarder à paraître. C'est d'ici la fin de cette semaine, c'est ça?
Oui, demain, il sortira de l'imprimerie. Et donc, le 1er août, c'est-à-dire samedi, j'en aurai à disposition pour le présenter au public qui assistera préalablement à ma conférence.
Alors, ce commissaire Laviolette, on le connaît bien dans les œuvres de Pierre Magnan. Pourquoi avoir écrit cette biographie du héros de Pierre Magnan?
Je dois vous dire que j'ai donc eu des relations amicales avec Pierre Magnan pendant un peu plus de 31 ans, puisque j'ai fait connaissance avec son œuvre en 1980. Nous avons correspondu très rapidement et je crois que c'était en 1980, je l'ai rencontré, je suis allé le voir. Il habitait près de Fort-Calquier dans cet endroit qu'il appelait son pigeonnier. Et au fur et à mesure que nous sommes rencontrés, que nous sommes fréquentés, que nous avons parlé, il m'est arrivé plusieurs fois de lui dire que je n'appréciais pas qu'il perde son temps avec le commissaire Laviolette, parce que j'avais lu un certain nombre d'autres œuvres. Je pense par exemple à La Naine, qui est moins connue, mais Pierre Magnan, lui, a fait sa réputation d'auteur de polar, de roman policier, alors qu'il avait des qualités littéraires, des qualités d'écriture exceptionnelles, mais qui était masqué par ces 9 textes dans lesquels intervient ce commissaire Laviolette. Alors ça le fâchait un petit peu, et c'est vrai qu'il n'était pas content de cette observation que je faisais, et c'est au fond, après sa mort, un peu un repentir de ma part. Vous dire pourquoi j'ai choisi cette biographie imaginaire, parce que ça m'est venu comme ça. Au fond, c'est un clin d'œil, oui, que je lui fais post-mortem. Hein. J'ai eu envie d'inventer, en grande partie, ce que lui-même avait imaginé préalablement. Et je me suis pris au jeu. Voilà. Alors, pourquoi Modeste Clarisse? La première chose, c'est que c'est Pierre Magnan qui nous donne le prénom de ce commissaire Laviolette. Donc, j'ai repris Modeste. Ça vient de lui. Par contre, il faut tout de suite peut-être rappeler que, à plusieurs reprises, il m'avait avoué qu'avait existé réellement un Laviolette. Mais dans l'histoire de France, il y en a eu plusieurs. Ce Laviolette, il l'avait connu quand il habitait près de Nice. Il complétait ses maigres ressources en allant faire la plonge dans un restaurant, et le restaurateur s'appelait Laviolette, c'était son nom de résistant. Et c'est ainsi que ce Laviolette imaginaire a bel et bien existé, il s'appelait Marcel Clérici, d'où l'idée de l'appeler Clarisse. Voilà.
Alors, on vous connaît bien sûr la passion des œuvres de Jean Giono. Vous avez fait beaucoup de conférences sur Jean Giono et écrit Jean Giono et le pacifisme, qui est paru en 2012. Et puis vous êtes aussi l'auteur de 2 romans, Ravine et Préti, Un amour envolé. Et là donc, pour revenir à Pierre Magnan, est-ce que vous avez lu tous ses livres, bien que le style polar ne vous convenait pas vraiment au départ.
La réponse est que oui, j'ai lu toute son œuvre et également des inédits. Parce que lorsque je le rencontrais chez lui, il lui est arrivé de me montrer des documents, des manuscrits qui, pour certains, semble-t-il, ont disparu. Et il m'a donné parfois l'occasion de lire quelques lignes d'un manuscrit. Je pense par exemple à un texte qui s'appelait « Retour ». Je me souviens très bien l'avoir vu sortir de son bureau un paquet, l'avoir ouvert, me l'avoir montré. Et aujourd'hui, il semble que ce manuscrit qui était terminé, mais qui avait été écrit lorsqu'il avait une vingtaine d'années, que ce manuscrit est disparu, vous voyez. Donc, et puis, il y a des œuvres qui sont très, très peu connues. Par exemple, Pierre Magnan a écrit pour les chocolats Colère, qui sont des chocolats fabriqués en Suisse. Mmh. Ces chocolats, cette société avait eu l'idée de créer des albums. Chaque fois que vous achetiez une plaquette de chocolat, vous aviez une image que vous colliez dans l'album. Pierre Magnan n'est pas le seul à avoir écrit, mais il a écrit une nouvelle qui concernait des enfants. Bon, ben, ce texte est devenu quasiment introuvable. Je l'ai lu, je le possède d'ailleurs. Je possède l'édition qui date de 1900, je ne sais plus quand, de 1940, 45, je ne sais plus. Donc, effectivement, j'ai lu Pierre Magnan, mais je l'ai lu très différemment de ma façon de lire Giono. Parce que, au début, c'est vrai que ce qui me convenait, c'était de voir ces énigmes policières qui étaient développées par un Pierre Magnan qui avait beaucoup d'imagination. Et dans le livre qui va paraître donc très bientôt, puisque je le montrerai au public le 1er août, dans ce livre, je dis, il s'est beaucoup documenté, notamment sur la procédure pénale. J'ajoute qu'il a commis quelques petites fautes, mais que d'une manière générale, il connaissait très bien les rouages de la vie policière, etc. Donc ça m'intéressait. Mais il y a eu d'autres livres qui me paraissaient tellement bien écrits que je regrettais ce fait qu'il a parfaitement expliqué. Il s'est lancé un peu par obligation dans le roman policier. Parce que Pierre Magnan a commencé à écrire très jeune. Il m'a avoué, cela on ne le trouve nulle part, il m'a avoué qu'il avait tellement envie d'écrire qu'à l'âge de 12 ans, il a purement et simplement recopié un roman d'Agatha Christie.
Ah oui.
Parce que ce qui lui plaisait, c'était de voir une feuille de papier se couvrir de mots, de phrases. Et c'est à l'âge de 17 ans, après avoir connu Giono, qu'il a écrit son premier vrai manuscrit, qui est paru beaucoup plus tard sous le titre « Périple d'un cachalot ». Donc, vous voyez, il a eu donc la possibilité, ce goût d'écrire. Et très jeune, donc, après avoir rencontré une grande écrivaine française qui est quasiment maintenant redevenue inconnue, Tide Monnier, après l'avoir connue, il a écrit et publié, grâce à elle, 4 romans, mais qui n'ont pas eu de succès. Le dernier a été publié aux environs de 1960, chez Julliard, si je me souviens bien. Ce sont des livres qui pourtant ont de la valeur, mais qui n'ont pas eu aucun succès auprès du public. Et Pierre Magnan, un peu dégoûté, il s'est arrêté d'écrire pendant 26 ans. Mmh. Et il n'a repris qu'en 1975, lorsqu'il était très triste et malheureux d'être à Paris, il prenait un train de banlieue, et c'est dans ce train de banlieue qu'il va écrire un livre qui va être son premier grand succès, que Fayard va intituler « Le sang des Atrides », prix 1978 du Quai des Orfèvres. Voilà. Donc vous voyez, et « Le sang des Atrides », qui se passe exclusivement à Digne et dans les environs, « Le sang des Atrides » est vendu cette fois-ci à 100 000 exemplaires dans les 5-6 premiers mois. Donc c'est le succès. Et bien sûr, Fayard lui demande de continuer à faire des romans policiers. parce que c'était le succès, et il va continuer donc avec les Charbonniers de la Mort, etc. Et puis avec celui qu'il préférait, qui s'intitule Les Courriers de la Mort, et qui se passe notamment à Barle et dans les clus de Barle. Voilà.
Alors, j'imagine que vous avez eu l'occasion de voir ces œuvres mises à l'image avec les films, les réalisateurs Philomène Esposito et ensuite Bruno Gantillon et Véronique Langlois qui ont porté à l'écran avec Victor Lanoux. Qu'est-ce que vous pensez de, quand on aime un auteur, de voir ensuite le film issu du livre?
Alors, je vais d'abord dire ce que pensait Pierre Magnan. Mmh. Alors, Pierre Magnan avait beaucoup apprécié le travail de Lautner avec La Maison assassinée. Mais il me disait toujours, ce qui est dommage, l'acteur principal, c'est Bruel.
Oui, Patrick Bruel. Mm-hmm.
L'acteur principal joue magnifiquement, mm-hmm. mais ça n'est pas comme ça que je voyais mon héros. Je le voyais en paysan, un peu bourru, un peu. Mm-hmm. Alors que Patrick Bruel a beaucoup de noblesse dans son rôle. Il l'appréciait. Par contre, je dois dire qu'il n'appréciait pas du tout les autres œuvres des réalisateurs que vous avez cités. Mmh. C'est au point que, dans les derniers temps, il a refusé les invitations à venir sur le tournage. Mmh. Moi, j'y suis allé, mais lui ne voulait plus. Et alors maintenant, mon point de vue, c'est que, certes, Le cinéaste, le réalisateur, le scénariste est libre de faire ce qu'il veut. Mais je suis parfois choqué de constater qu'on va jusqu'à changer la fin d'un livre pour des raisons que je ne m'explique pas. Le dernier, si je me souviens bien, le dernier qui a été vu en avant-première d'ailleurs à Fort-Calquier, c'était Le Parme convient à la Violette. Or, dans ce livre, Pierre Magnan fait mourir son héros, la Violette. Et dans le film, on ne voit absolument rien de tout cela. Donc, je crois que le cinéma, c'est une chose, mais j'y vais parce que, ou je regarde même, j'y vais à l'avant-première ou à la première quand je suis invité. Je regarde ensuite à la télévision, puisque ce sont des films télévisés. Mais il n'y a pas ce plaisir que je ressens à lire Les Courriers de la Mort ou Le Parme convient à la Violette, vous voyez. Donc, c'est pour moi, c'est la même chose, si vous voulez, que j'ai ressenti lorsque j'ai vu, c'est Madame Binoche, comment s'appelle-t-elle de son prénom, je ne sais plus, qui jouait le rôle de Pauline dans Le Hussard sur le Toit.
Eh bien, Juliette Binoche.
Juliette, oui.
Oui.
Il y a des choses dans ce film, il y a de très belles images, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne vous dis pas que ça n'est pas bien, mais que je ne comprends pas. Eh bien, dans ce qui est fait de l'œuvre de Pierre Magnan, j'ai du mal à accepter. Alors, je vous signale quand même une chose, c'est qu'il ne serait pas impossible qu'une société de production m'achète les droits de Commissaire La Violette.
Ah, oui. C'était ça le scoop.
Oui, voilà. Ah. Oui, parce que la condition, c'était que je sois publié. Or, pour être publié, il fallait que j'aie l'autorisation de Lafon, qui a été le dernier éditeur de Pierre Magnan. Mm-hmm. J'ai reçu une très gentille lettre d'un directeur général de chez Lafon qui me dit... allez-y, ça nous fait très plaisir, n'hésitez pas, on ne vous en veut absolument pas, au contraire, ça nous fait plaisir. Donc, maintenant, on peut publier avec Jean Darrault, et puis si je relance et si j'ai ce plaisir, alors ils ont appelé ça d'un terme anglais, ils m'ont dit nous ferons un presquel. C'est-à-dire que... Parce que moi, je donne la vie de la Violette, mm-hmm. depuis sa naissance jusqu'à sa mort, que je ne fais que suggérer. Bon. Et donc, il ferait un retour en arrière, je crois que ça signifie cela. C'est-à-dire qu'on verrait le la Violette à l'école, etc., pendant la guerre. Donc, ce que l'on ne voit pas dans les films tournés sur l'œuvre de Pierre Magnan.
Eh bien, voilà qui est fort intéressant, Jacques Meurant. On va revenir sur votre livre, donc « Commissaire Laviolette alias Modeste Clarisse » aux éditions Parole. Trois parties dans ce livre.
Oui, mais qui ne sont pas séparées. Je veux dire que ça commence par une explication. J'explique qu'il y a bien moins deux parties, j'aurais pu dire trois, mais... En fait, ça commence par ce que j'appelle un prélude, que j'intitulerai ensuite interlude hein, et postlude. Et le prélude, si vous voulez, c'est prélude, interlude et postlude, c'est des discussions que j'ai eues avec Pierre Magnan. Alors, parfois, dans ces discussions, il y a de l'invention. Pierre Magnan ne m'a jamais dit... écrivait la biographie de Laviolette, puisqu'il n'existait pas, sauf dans sa propre imagination. Mais je raconte un certain nombre d'anecdotes qui sont tirées des notes que j'ai prises quand je sortais de chez Pierre Magnan. Donc, il y a donc ces parties. Il y a ensuite des chapitres, je ne sais plus, je crois, 9 chapitres, qui sont la présentation donc, de la vie de Laviolette, de Modeste Clarisse, qui naît à Piégu, dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, qui va aller à l'école, qui va avoir des petites aventures, qui va vivre sa jeunesse, partir en Angleterre pour devenir un recrue de la force libre, entrer dans la résistance parce qu'il est parachuté. Alors ce que je dois vous dire, c'est que tout cela, c'est à partir de mon imagination, et des fiches que j'ai faites en relisant toutes les œuvres de Pierre Magnan dans lesquelles il parle de Laviolette. Il dit trois mots. Et parfois, c'est anecdotique, je le raconte. Il dit, en 1940, Laviolette est caporal. Donc moi, j'ai inventé et imaginé. Puis s'il était caporal, c'est qu'il s'était engagé préalablement. Donc j'ai inventé qu'il allait à Nice, etc. Et il dit, il part du port de Terrenaise. Alors, j'ai cherché, j'ai maintenu, bien sûr, que Laviolette partait du port de Terrenaise. Mmh. Mais j'ai commencé par faire comme beaucoup, j'ai regardé et j'ai constaté que Terrenaise n'est pas un port, mais un pont au bout de la Bretagne. Et puis, en fait, en poursuivant mes recherches avec l'aide d'amis bretons, eh bien, j'ai découvert que Pierre Magnan écrit Terrenaise avec un seul R, alors qu'il y a bien un port de Terrenaise qui existe. Tout petit port. Mmh. Et puis, bien sûr, je me suis souvenu que Pierre Magnan m'a écrit d'un petit village d'à côté qui s'appelle le Dibène. Donc, vous voyez, ça, je l'ai gardé. Je fais embarquer Laviolette pour l'Angleterre dans le port de Terrenaise. Ensuite, donc chaque fois que possible, j'ai utilisé des informations très brèves fournies par Pierre Magnan, et puis j'ai comblé par mon imagination. Voilà.
Donc un sacré travail qui vous a demandé plusieurs mois,
oui,
j'imagine.
Oui, et un énorme dossier qui fait plusieurs centimètres d'épaisseur. Et puis alors, à l'intérieur, c'est au fond le troisième élément, c'est que j'ai inventé, à mon tour, une énigme policière qui se passe au-dessus de Digne, bien sûr.
Et ça, j'imagine que ça a dû beaucoup vous amuser.
Oui, beaucoup, mais j'ai compris à quel point c'était difficile d'écrire un polar.
Ça, oui. Et oui, c'était une première pour vous.
Oui, mais alors, je ne saurais jamais si Pierre Mathieu aurait trouvé ça intéressant ou pas. Enfin, je ne sais pas. Donc, il y a en fait trois parties, mais les unes imbriquées dans les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai donné une explication au préalable pour que les gens, les lecteurs éventuels ne soient pas désorientés par cette présentation où vous avez des interludes et puis vous avez des chapitres et puis vous avez cette énigme dans laquelle je raconte l'histoire d'un berger qui est considéré comme meurtrier d'un enfant.
Est-ce qu'il vous a fallu l'autorisation de la famille de Pierre Magnan pour écrire ?
Alors, la famille, elle se restreint à une personne, mm-hmm. qui est sa veuve, qui est très satisfaite de ce travail. Je lui ai soumis mon explication introductive, elle ne m'a pas répondu. Par contre, elle était, pardonnez-moi, très flatté parce que Pierre Magnan, comment dirais-je, avait dans son œuvre Le Parme convient à la Violette tombe amoureuse d'une femme qu'il appelle Lemda. Et quand on lui demande ce que ça signifie, si vous prenez et phonétiquement et en épelant, ça fait « Elle est mon dernier amour, Lemda ». Mmh. Et dans mon introduction, je dis « Moi, je l'appelle Françoise et sa veuve s'appelle Françoise ». Donc, elle en était très contente. Ah. Mmh. Voilà.
Un bel hommage pour Pierre Magnan et pour sa veuve. Donc,
oui, oui, ouais, oui. Oui, oui, c'est
plaisir.
Vrai.
Alors, ça, c'est un livre donc avec trois parties et des manifestations donc que vous avez prévues pour présenter ce livre, c'est ce samedi 1er août au presbytère d'Estoublon.
Oui.
Comment ça va se passer? Vous parlez d'une exposition et de photos.
Alors, il y a plusieurs années déjà, la médiathèque départementale des Alpes-de-Haute-Provence a constituer une exposition par des panneaux, vous savez, qui portent un nom très particulier que je ne connais pas, dans lesquels il y a des thèmes, et je crois 9 panneaux, il y a des thèmes. Donc la commune d'Estoublon bénéficie, comme d'autres communes déjà, bénéficie de cette exposition qu'elle a sollicitée. Et les organisateurs, dont Madame Michèle Aubert, ont souhaité que je vienne à Estoublon présenter la conférence que j'ai déjà faite, mais je l'ai un peu renouvelée quand même, que j'ai intitulée « Souvenirs de la vie et de l'œuvre de Pierre Magnan », dans laquelle j'évoque sa vie, très brièvement son œuvre, parce que je ne suis pas un critique littéraire suffisamment averti, et puis ma rencontre et ce que je peux dire de cette relation. Et puis il se trouve que je possède, après 31 ans et demi, je possède, je crois, 160 ou 180 photos de Pierre Magnan.
Oui.
Certaines que j'ai moi-même faites, d'autres qui sont l'œuvre de ma compagne. Et j'en ai sorti 7, pour la raison qu'elles étaient déjà encadrées, et puis parce qu'elles me paraissaient extrêmement bien faites. Alors, je suis navré, on m'y voit en compagnie de Pierre Magnan, et j'ai prêté ces 7 photographies. Il y en a une qui est extrêmement émouvante, puisque c'est la dernière photo de Pierre vivant. J'étais allé en effet le voir. Il faut d'abord que je vous dise que, pour des raisons personnelles dans lesquelles je ne veux pas entrer, Pierre Magnan a quitté Fort-Calquier, où il résidait après la mort de sa première femme. Il l'a quitté en décembre 2010. Et avec sa nouvelle épouse, il s'est installé à Voiron, dans l'Isère. Je suis allé le voir 3 fois. La dernière fois, c'était en mars 2012, et j'ai pris cette photo parce que peut-être avais-je un pressentiment, et il est mort quelques semaines plus tard.
En avril 2012, oui.
Oui, en avril, le 28 avril. Pardon. Donc, cette photo est émouvante parce que si l'on regarde de loin, on a l'impression qu'il y a un rictus, et en fait, pour moi, c'est le rictus de la mort. Puisque quand je suis parti, quand je l'ai quitté, je savais que je ne reverrais plus.
Ah oui.
Oui. Donc, j'ai prêté cette photo et Madame Michèle Aubert et son mari Jacques Méni, qui a été assistant réalisateur, qui est un excellent cinéaste, ont vraiment mis en valeur ces photos. Il y en a une que je montrerai qui est très belle. En 2011... J'avais été invité par lui. Nous étions donc à Laragne, où on donnait son nom à l'école communale. Et je vais vous raconter cette anecdote que je raconterai samedi. Je le prends en photo avec la plaque Pierre Magnan, école Pierre Magnan. Lui est en dessous. Les discours officiels sont terminés. Il y avait le député, le maire de Laragne. Et il me prend par le bras. Il m'emmène, il me dit « Écoutez, maintenant, on va un peu parler de choses sérieuses. » Et il m'amène à l'écart et il me dit, vous voyez, j'ai quand même 88 ans et je me souviens de ça. Et il me récite Le cimetière marin de Valéry. Et ma compagne a cette intelligence de faire cette photo au moment où il fait sa récitation. Levez-vous vite, orage... Non, je ne sais plus. Il avait une mémoire fantastique que je n'ai pas, vous voyez. Mais c'est ce moment qui est quelques instants après la photo de Pierre devant la plaque de l'école. Donc, je la montrerai. Celle-là, je ne l'ai pas laissée en exposition. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire de cette manifestation à Estoublon.
Donc, c'est à 18h30.
18h30, oui.
Au presbytère d'Estoublon.
Oui.
Où on pourra entendre votre conférence et voir ces photos.
Oui. Alors, il y a beaucoup d'autres manifestations.
J'en suis très touché. Oui.
Alors, à Riez... Les libraires de Riez, Pascal et son épouse, qui sont des gens délicieux, avaient l'année dernière fait un salon du livre sur la place publique. Et cette année, ils renouvellent et ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Alors, j'irai présenter mon livre, mais je le vendrai avec mon éditeur, Jean Darro, bien sûr.
Donc ça, c'est dimanche.
C'est le 9 août.
À Riez, Voilà. Pour ce salon du livre, deuxième salon du livre organisé par les libraires, monsieur et madame Jaubert.
Oui. Des gens délicieux et qui ont une façon de présenter les livres, d'en parler.
Ce sont de vrais libraires passionnés. Libraires. Voilà, ils ont été invités par Jean Darro dans son émission Les livres ont la parole, et c'est vrai que c'était juste. C'est Pascal, c'est ça, hein,
qui était venu. Oui, Pascal. Et son épouse, avec les grands-parents, fait un repas délicieux que nous partageons sur des tréteaux, des tables mises sur la place de Riez. C'est merveilleux. Alors ensuite, j'ai déjà présenté mon roman Préti à Carrefour de Digne. Et j'ai parlé de cette nouveauté, le commissaire Laviolette, et... Donc le responsable de la librairie Carrefour m'a dit que, bien sûr, il envisagerait très volontiers de me recevoir à nouveau.
C'est une bonne expérience pour vous, la galerie de Carrefour. C'est facile de présenter ses livres dans...
Non.
C'est pas facile.
C'est plus facile de le faire dans
un salon du livre.
Ce que je souhaiterais aussi, c'est bien sûr... être présent à la maison de la presse de Digne. D'ailleurs, dans mon roman, dans mon texte « Commissaire Laviolette », je parle des personnes qui ont précédé les actuels propriétaires, qui étaient des amis de Pierre Magnan. Il est venu souvent faire des dédicaces chez ces personnes. J'en dis un mot à un moment, parce que moi-même, j'ai connu ces gens-là quand j'étais... jeune homme ou quand j'étais plus jeune encore. Et puis alors après, ça c'est Jean Darro qui m'a fait part de cela. Le 22 août, ce sera à Gréoux-les-Bains, à la médiathèque, où je pense il parlera du livre et j'en parlerai après. Et puis, alors il y aura un peu plus tard, en octobre, mais je n'ai pas très bien compris, c'est Jean Darro qui m'a également mis sur cette voie. Ce sera à Colmar-les-Alpes. Je crois que c'est également organisé par une librairie qui se trouve à Colmar-les-Alpes. Mais je n'en sais rien. Voilà.
On aura l'occasion d'en reparler, d'avoir le détail au fur et à mesure. Et puis ensuite, c'est au mois de décembre, à Digne.
Oui. Alors, il y a eu à Sisteron, l'année dernière, une manifestation qui était le prix de la nouvelle. Pierre Magnan. La ville de Sisteron a honoré de cette sorte cet écrivain qui lui a consacré un ouvrage, c'est Le secret des Andrones, qui se passe à Sisteron, et notamment qui commence, comment on appelle ça, là où se tient le festival, vous savez, sur les remparts. Donc, comment on appelle la citadelle de Sisteron. Donc il y a un meurtre qui commence là. Alors, des amis de Fort-Galtier, notamment une association, souhaitent honorer également Pierre Magnan, et la mairie de Fort-Galtier a d'ores et déjà pensé qu'elle pouvait donner le nom de Pierre Magnan à une place. Pierre Magnan avait un petit appartement au numéro 2 du boulevard des Martyrs de la Résistance. J'y suis allé souvent le rencontrer à cet endroit. Et en face, il y a une placette qui, je crois, n'a pas de nom. Alors, le problème, c'est que la mairie n'agit pas très vivement. Je me suis entretenu avec Françoise Magnan, la veuve, qui m'a dit « Mais j'ai déjà répondu que j'étais d'accord, je ne vais pas leur renvoyer une nouvelle lettre. Il semblerait que cette lettre se soit perdue dans les bureaux, dans l'administration communale. » Et alors, j'ai eu cette réaction, j'ai dit « Mais il n'y a que Digne qui ne l'honore pas suffisamment. » En 2012, après sa mort, j'ai fait une conférence dans le cadre de la Société scientifique et littéraire, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Je suis entré en contact avec Madame la maire de Digne, qui m'a répondu, mais on ne peut pas donner de nom à un lieu de la commune parce qu'il y a déjà une rue Pierre Magnan qui était un avocat. Membre du conseil municipal, donc on ne peut pas. La poste ne s'y retrouverait pas. Mais par ricochet, j'oserais dire, j'ai pris contact avec la directrice actuelle de la médiathèque communale, c'est-à-dire As Bléon-Verdon. Et elle s'est montrée enthousiaste. Alors je lui ai proposé un programme. Parce que mon idée, celle de Françoise Magnan, c'est que des jeunes gens, des jeunes filles participent à une manifestation. Donc, j'avais songé dans un premier temps à des lycéens, par exemple de la classe de seconde. On a constaté que c'était difficile parce que ces lycéens, ben, ils ont beaucoup de choses à faire, même en seconde, et que d'autre part, on serait un petit peu gêné. Il faudrait choisir un jour et un moment où ils sont libres. Et puis, c'est difficile aussi de demander à des enseignants de littérature française, hein, de leur demander d'inclure dans ce qui est déjà leur programme, d'inclure quelque chose. Et je ne voyais pas très bien ce qu'on pouvait faire. Et la directrice de la médiathèque a eu cette excellente idée. Elle a dit, mais il y a un atelier de théâtre. Pourquoi pas lui confier une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'ai donc, à partir exclusivement des œuvres de Pierre Magnan, et notamment de Ma Provence d'heureuses rencontres, des textes comme ça, j'ai trouvé une série de textes que j'ai intitulé « Chuchote ô ma Provence » puisque c'est le début d'une de ces phrases. Et je crois que donc cet après-midi consacré à Pierre Magnan commencera par soit des lectures, soit des récitations par les élèves de l'atelier de théâtre. Et puis personnellement, pour que je puisse montrer à quel point Digne était important pour Pierre Magnan, j'ai préparé une conférence qui s'intitulera « Pierre Magnan et Digne ». Surtout, pour la raison que je viens de vous dire, c'est que la première fois qu'il m'a écrit, il m'a dit à quel point il aurait voulu naître à Digne. Et il l'écrit dans de nombreux textes où il dit c'est mon lieu, alors que je n'y ai jamais habité.
Il est né à Manosque, hein, c'est ça.
Il est né à Manosque, dans une rue qui existe encore, la rue Chacun-Dier. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai pensé à Digne, bien sûr, c'est que son premier grand succès, je l'ai dit, c'est Le sang des Atrides. Eh bien, il l'écrit dans un train de banlieue. Entre octobre 1975 et octobre 1976. Il travaille à Paris contre son gré. D'ailleurs, il sera licencié pour motif économique très rapidement. Il travaille donc à Paris et des amis l'hébergent près de Annette, célèbre pour son château. Et dans le train, il se remet à écrire sur des carnets et il va faire ce texte. Eh bien, de mémoire, il connaît parfaitement la ville de Digne. C'est au point que, à côté de chez moi, il y avait le petit séminaire qui est maintenant l'IUT. Mmh. Le petit séminaire, il y avait un portail que je voyais tous les jours. Pierre Magnan l'évoque et il est à Paris. Et vraiment, il faut... Il donne des indications du boulevard Gassendi, du boulevard Victor Hugo, etc., du pont des Arches. Il connaît très bien, et puis il a dit toute son admiration. Il racontait cette anecdote, ce qui n'est pas vrai. Hein. Il me disait souvent, et il a écrit ensuite, il disait, vous savez, les Dinois m'approchent et disent, surtout ne parlez pas trop de nous, qu'on ne nous connaisse pas et qu'on nous laisse tranquilles. Qu'on reste une ville inconnue. C'était une anecdote, bien sûr. Donc, vous voyez cette importance pour moi de cette manifestation, de cette conférence, de ce qui se fera après. Et ensuite, peut-être quelque chose d'autre. Il serait possible qu'on finisse la soirée dans un restaurant dinois, parce que j'en ai parlé à la propriétaire de ce restaurant, c'est le Grand Paris, parce que dans mon livre, à un moment, j'invente un repas que la Violette va consommer avec une femme qui va devenir sa maîtresse. Et j'ai inventé purement et simplement ce menu, et je me suis dit, au fond, et si on terminait par un menu imaginaire, mais qui soit réalisé par... un grand chef cuisinier qui est la fille Rico. Voilà, donc tout ce qui est possible de faire, et puis peut-être aussi, peut-être pour commencer un trio, parce qu'à un moment j'évoque le trio de Beethoven qui s'appelle À l'Archiduc, et qui pourrait être joué en même temps, ou avant qu'on serve les plats. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Jacques Meurant, vous sent toujours autant passionné, que ce soit des œuvres de Pierre Magnan ou de Giono également. Et là, donc, vous êtes vraiment pris au jeu à la fois avec la recherche, la relecture de tous ces polars de Pierre Magnan et aussi avec cette amitié qui vous liait. Ça va vous donner peut-être envie après encore de poursuivre dans le roman policier ou...
Alors, je crois que je peux répondre non.
Non.
D'ailleurs, je ne suis pas flatté quand... les affiches d'Estoublon notent Jacques Meurant écrivain. Je ne me considère pas comme écrivain, je me considère comme écrivain intermittent.
Intermittent,
oui,
c'est
parce
joli.
Que si vous entretenez avec quelqu'un comme René Frény, qui est un ami que j'aime bien, vous apercevez que tous les jours, il se met à sa table chez lui, hein, sur cette très belle place de Manosque, dans ce bel appartement qu'il a si bien arrangé. Il se met à sa table, tend sa cuisine, et il écrit. J'en suis totalement incapable. Vous voyez ? Il m'est arrivé parfois de prendre des notes en disant « Tiens, ça pourrait donner lieu à un petit texte romanesque. » Mais il m'arrive de rester des mois sans avoir envie d'écrire. Et ça signifie bien que je ne suis pas réellement un écrivain. Alors c'est vrai que j'ai publié un roman que Pierre Magnan avait lu et qui lui avait plu, qui s'appelait Ravine, que j'ai publié ce roman Préti, aujourd'hui cela, et puis après je me dis peut-être que je m'arrêterai, je ne sais pas. Mais pour le moment, je n'ai rien en tête, mais surtout pas de roman policier. C'est trop difficile.
En tout cas, Jacques Meurant, merci. On sait qu'on peut vous retrouver donc dès samedi 1er août au presbytère d'Estoublon pour une conférence sur Pierre Magnan, une conférence qui s'appelle...
souvenir de la vie et de l'œuvre de Pierre Magnan.
Voilà, où on pourra découvrir les photos, et des photos qui sont aussi visibles à d'autres moments. Hein. On peut les voir jusqu'au 16 août.
Oui, tout à fait.
Tous les samedis et dimanches, c'est ça.
Oui. Et puis ensuite, c'est permanent pendant les derniers moments d'août. Le presbytère restera ouvert à peu près toute la journée, d'après ce que je sais. Oui, c'était une idée que j'avais eue et qui a été adoptée. Ça me plaît beaucoup. Bien sûr, c'est pas très modeste de ma part, puisque je suis la plupart du temps avec Pierre Magnan. Par exemple, quelques heures avant qu'il ne quitte Fort-Calquier, nous sommes tous les deux, il téléphone pour qu'on aille manger ensuite, car il aimait bien manger. Mmh. Nous sommes allés à Mann ce jour-là, je m'en souviens. Mais donc, je suis à côté de lui. Bien la photo que j'aime beaucoup, qui orne donc la quatrième de couverture, ça, c'est au moment où il vend un bien. Et il me téléphone quelques heures avant en me disant « Venez à Oraison et vous m'attendez à la sortie lorsque nous aurons signé chez le notaire, etc. » Et il faisait un peu froid, c'était en novembre, je crois, 2011, et il a souhaité que je le tienne par le bras. Et donc, je trouve ça une très jolie photo qui me fait plaisir. Voilà. Donc il y a de belles photos et je regrette d'y être très souvent, mais je n'ai pas pu faire autrement. J'aurais pu en choisir d'autres.
Mais quelque part, ça vous fait plaisir, bien sûr, c'est aussi un témoignage de votre amitié.
Oui, c'est vrai. Maintenant, je voudrais quand même faire une précision. Je n'ai jamais osé dire que j'étais son ami. J'avais pour lui de l'admiration, oui, mais surtout de l'affection. Vous voyez, c'était un personnage avec lequel j'ai parfois discuté de rien. On n'a pas eu des grandes discussions littéraires. On les a eues quand on abordait Giono. Parce que pour lui, c'était son maître qui l'avait ouvert à la culture livresque. Mais ce qui est merveilleux, ça c'est entre parenthèses, c'est que Pierre Magnan n'a jamais copié Giono, il n'est pas du tout quelque chose de Giono. Non, il est lui-même.
Tout en étant très admiratif de Giono.
Oui. Et je vous signale que dans les derniers temps de sa vie, il a travaillé, de façon d'ailleurs inutile pour moi, il a travaillé sur ce qu'il connaissait de Giono et ce qu'il avait comme document, car il voulait, encore une fois, parler de Jean Giono. Il l'avait fait en 1990, je crois, avec Pour saluer Giono. Et là, il voulait, et je crois que dans mon livre, dans les dernières lignes, je cite un texte inédit qu'il m'avait offert, il est en train d'écrire, et le titre qu'il voulait donner à cette œuvre, c'était Les jardins d'Armide. Armide étant une magicienne qu'on trouve dans la Jérusalem délivrée de l'Arioste. Et c'était Jean Giono qui lui parlait des jardins d'Armide. Donc, il voulait et il n'y arrivait pas. Et j'ai une lettre poignante dans laquelle il écrit « Je viens d'écrire 300 pages et je n'ai pas avancé d'un pouce. » Et sa dernière phrase, lorsque je l'ai quitté à Voiron, en mars 2012, c'était « Je ne me souviens plus de rien, je ne réussis plus à écrire ». Voilà, c'était sa fin.
Jacques Meurant, merci. On vous retrouve le 1er août à Estoublon, et sinon le dimanche 9 août au Salon du Livre à Riez. Et puis bien sûr, on vous verra encore et encore dans Digne pour dédicacer ce livre que vous aurez entre les mains dès demain.
Absolument.
Ce livre donc qui s'appelle, je reprends l'intitulé, « Commissaire La Violette alias Modeste Clarisse, le roman d'une biographie du héros de Pierre Magnan ». Et puis, juste, je voudrais préciser, donc vendredi 14 août à 18h30, c'est « Je me souviens de Jean Giono par Pierre Magnan ». ce film de Jacques Méni, qu'on a déjà eu l'occasion de voir, je crois, à la salle Abbé Ferraud, un très très beau film de Jacques Méni et lecture d'extrait. L'or du bout du monde avec Jacqueline Hirsch et Alain Pudal. Voilà donc pour des rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, merci encore de m'avoir reçu aussi agréablement. À bientôt.
Merci Jacques Meurant, à bientôt. Au revoir.